Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal avec Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, une délégation de la SADC a échangé hier lundi à Goma, au Nord Kivu, avec le gouverneur de province. Au menu de cette rencontre, la question de formaliser les déploiements de la dite force au Nord Kivu, les besoins et autres préalables pour la réussite de cette mission. Un peu moins de 10% des femmes sur 688 députés provinciaux élus dans les 26 provinces, résultat provisoire annoncé dimanche dernier par la CENI. Ce taux faible s'explique entre autres par le fait que les femmes n'occupent pas de place de choix au sein des partis et regroupements politiques. Propos de la secrétaire exécutive de la Synergie des femmes pour la paix et la réconciliation entre les peuples des Grands Lacs, Yvette Mouchigo est l'invitée de ce journal. Dans la province du Kasaï, les programmes nationaux de l'hygiène aux frontières déplorent les conditions dans lesquelles les Congolais sont expulsés de l'Angola vers Kamako. Les responsables de ces services annoncent l'arrivée la semaine dernière de près de 200 personnes dépourvues de tout. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au Nord Kivu, une délégation de la SADC conduite par son secrétaire exécutif, accompagnée de l'équipe de commandement de la force SAMI RDC, a échangé hier lundi à Goma avec le gouverneur de province. Il était question de formaliser les déploiements de la dite force au Nord Kivu, les besoins ainsi que les autres préalables pour la réussite de cette mission. Cette force de la SADC vient avec un mandat pour sécuriser cette partie est de la République démocratique du Congo, a déclaré Elias Magossi, secrétaire exécutif de cette organisation régionale. Sifa Maguru revient avec détails sur cette rencontre.
Pour ces responsables de la SADC, le mandat de cette force en RDC, SAMI, est de sécuriser la partie est de la RDC, s'assurer que les déplacés rentrent dans leur milieu d'origine et que les humanitaires sont en place pour aider les populations retournées. À la question de savoir à quand le début des opérations de la SAMI, les secrétaires exécutifs rassurent que le déploiement des autres troupes allait s'accélérer comme les élections sont passées afin de compléter les soldats qui sont arrivés depuis le 15 décembre. Elias Magossi revient ici avec précision sur la coordination entre la SAMI et la MONUSCO dont les troupes de la brigade d'intervention vont se joindre à la SAMI. Rappelons que la population du Nord Kivu attend beaucoup de cette force régionale qu'elle voudrait voir offensive sur les lignes de front aux côtés des FARDC. Goma Sifa Maguru, Radio Okapi.
Et puis l'Afrique du Sud s'est dit déterminée à contribuer de manière efficace pour le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort de la rencontre hier lundi à Kinshasa entre l'envoyé spécial du président sud-africain pour la région des Grands Lacs, Jeff Radebe, et le vice-premier ministre en charge de la défense et ancien combattant Jean-Pierre Bemba. Des détails avec Jacques-Yves Molima.
Le président sud-africain a un seul vœu, celui de voir prochainement l'Est de la RDC retrouver une paix durable et que l'ensemble de la RDC puisse retrouver la paix afin qu'elle puisse développer sa population et le pays. C'est ce qu'a fait savoir l'envoyé spécial du président Cyril Ramaphosa au sortir de l'audience avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba. D'après Jeff Radebe, le besoin de la paix est immédiat. Et son pays étant membre de la SADC a décidé d'apporter la paix par la force de sauvegarde de la paix qui est déjà sur le terrain dans l'est de la RDC. Évoquant à l'occasion la coopération militaire entre les deux pays, Jeff Radebe a martelé que la coopération militaire entre les deux pays est très cordiale. C'est un moyen important, dit-il, d'avoir la paix et ainsi voir l'excellence des relations économiques entre les deux pays et aussi voir la prospérité de la population du Congo. Notons que la rencontre entre les deux personnalités s'est déroulée en présence de leurs collaborateurs respectifs.
Retour au Nord Kivu, où la société civile du secteur de Bapéré, dans le territoire de Lubero, dénonce les tracasseries perpétrées par les membres des groupes armés dans la région. Selon Samuel Kageni, son président, la population de plusieurs agglomérations de Bapéré vit à la merci de ces hors-la-loi. Hormis les travaux communautaires forcés, ces miliciens font payer des taxes illégales à la population, cela sans aucune intervention des autorités militaires. Samuel Kaini Kakule recommande aux autorités d'intervenir pour que la population vive en paix. Il a été joint par André Kitenge.
Nous observons une tracasserie généralisée par les groupes armés qui restent dans les grandes agglomérations du secteur de Bapere, comme à Bandoulou, à Mabouo, voire même à Midede, où ces tracasseries généralisées, et notamment les salons forcés, les amendes trop exorbitantes et qui sont taxées une fois vous tombez dans l'erreur, parce qu'une fois vous ne participez pas à ces salons, au contrôle des jetons une semaine durant, vous payez au-delà de 100 000 francs. Et autre chose, une fois vous entrez dans les villages, il y a des barrières que vous rencontrez, vous payez 1 000 francs, les jetons 2 000 francs. Il y a même des taxes qui devraient être perçues par l'État. Ces taxes sont en train d'entrer dans les poches de ceux-là qui se disent Ouazalendo. Et c'est pourquoi nous, société civile, nous demandons à ce que, en tout cas, d'une manière urgente, une solution puisse être au moins trouvée pour que la population de ces agglomérations reste dans la paix.
Contactez le colonel Alain Kiwewa, l'administrateur du territoire de Lubero, dit être informé de cette situation. Il dit avoir instruit tous les commandants militaires du secteur pour mettre fin au dérapage de ces miliciens. En Ituri, pendant ce temps, les groupes armés Tiniatuna et un autre Mai Mai se sont engagés à cesser définitivement les atrocités contre la population dans les territoires d'Irumu. Cela en vue de permettre la relance des activités agricoles dans environ 65 villages dans la chefferie de Wale Sevonkutu et une partie des Basili vidés de leurs habitants à cause de l'insécurité. Les leaders de ces milices ont signé dimanche dernier un acte unilatéral d'engagement au cours d'une rencontre organisée par l'administrateur du territoire d'Irumu avec l'appui de la MONUSCO. Des détails avec Isaac Remoyopé.
Des tensions communautaires étaient observées depuis plus de 2 ans dans la chefferie de Wale Sevonkutu entre les autochtones appuyés par la milice Tiniatuna et d'autres agriculteurs venus du Nord Kivu soutenus par les groupes armés Mai Mai Kabidon. Des cas de meurtres, d'enlèvements et de destruction des produits agricoles étaient souvent enregistrés de part et d'autre, ce qui a obligé de nombreux habitants à abandonner ces entités, avec comme conséquence la paralysie des activités agricoles et la rareté des denrées alimentaires sur les marchés. Face à ces défis, l'administrateur du territoire d'Irumu a initié une rencontre du 19 au 20 janvier pour la pacification de la zone et les renforcements de la cohésion sociale avec l'appui de la MONUSCO. À l'issue de ces assises, les deux parties ont demandé pardon aux victimes et se sont engagées à ne plus commettre des exactions contre la population, mais plutôt de faciliter la libre circulation des personnes et de leurs biens, d'accompagner les retours des déplacés et des agriculteurs dans leurs milieux respectifs. Ils ont également résolu de ne pas entraver les activités humanitaires dans la zone sous leur contrôle et de libérer les personnes arrêtées arbitrairement. Les leaders de ces milices ont afin de réitérer leur engagement d'intégrer les programmes de désarmement et de mobilisation. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Dans le chapitre électoral de cette édition, en dépit des nombreux défis logistiques et économiques, les femmes de la société civile ont fait un travail remarquable dans la préparation et la mobilisation pour exprimer leurs ambitions en posant leur candidature à différents postes électifs. Propos de la secrétaire exécutive de la Synergie des femmes pour la paix et la réconciliation entre les peuples des Grands Lacs sur les résultats réalisés par les femmes aux élections provinciales. Pour Yvette Mouchigo, le faible taux de réussite des femmes à ces élections s'explique entre autres par le fait qu'elles n'occupent pas de place de choix au sein des partis et regroupements politiques. Yvette Mouchigo a été jointe par René Capita.
Pour moi, déjà, lorsque nous avons vu d'autres gros candidats par rapport à la logistique, aussi par rapport aux moyens qu'ils ont, j'ai compris que les femmes avaient moins de chances, effectivement, de pouvoir soutirer les voix auprès de cet électorat qui, au fait, s'est beaucoup plus remarqué par cet aspect-là de tendre la main, donc un ventre creux qui n'a point d'oreille. Ce qui est encore remarquable, par exemple, pour le site Kivu, ma province, dans les partis politiques, les femmes n'occupent pas de place de choix. Certaines femmes, même qui ont postulé, elles ont été beaucoup plus dans des partis politiques satellites qui n'avaient pas suffisamment de poids politique. Ça, c'est déjà un problème. Nous avons une loi congolaise qui n'encourage pas effectivement la participation des femmes. Je peux partir même juste d'un exemple aujourd'hui. La plupart des circonscriptions où les chefs coutumiers ont été candidats, la plupart ont été massivement élus encore une fois. Et en même temps, il y a cette loi-là électorale qui permet encore une fois de les coopter dans les assemblées provinciales. Mais comment donner un pouvoir aux gens qui ont déjà un pouvoir et laisser de côté une frange importante de la population qui sont les femmes qui n'ont aucun pouvoir et pourtant elles devraient bénéficier de tous ces avantages-là.
Et dans le chapitre électoral, toujours parlons de cette réaction de la Mouka à l'appel du président de la République à l'opposition afin de travailler ensemble pour la reconstruction du pays. Selon Prince Mpeng Epenge, cadre de la Mouka, sa plateforme est prête à rencontrer le président Félix Tshisekedi. Interrogé par Radio Kapi, il a ajouté que cette rencontre devra tourner autour des discussions entre toutes les parties prenantes pour dégager les responsabilités des uns et des autres dans ce qu'il qualifie de chaos électoral. Prince Epenge l'a dit à Paul Matendo.
L'idée de discuter telle que M. Félix Tshisekedi le préconise, nous sommes d'accord, mais discuter pour dégager les responsabilités par rapport au chaos électoral qui a semé la désolation et le désespoir au sein de notre peuple. Discuter pour élaborer les perspectives afin de donner au peuple la parole lors des vraies élections. Nous pouvons en quelque sorte dire que nous saluons l'idée de parler les uns les autres, Martin Fayulu, Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Joseph Kabila et les autres acteurs politiques qui comptent, la société civile évidemment, discuter, échanger sur comment on en est arrivé là et que faire pour que demain, notre peuple ne puisse plus être frustré, que notre pays ne soit plus humilié par des élections bâclées. Là, nous ne trouvons pas de convenants.
Et puis, arrestation depuis 10 jours au parquet de Bassankoussoud, dans l'Équateur, d'un notable et sa femme. Le couple est accusé de calomnie et d'avoir dénoncé sur les réseaux sociaux la fraude électorale par un candidat à la députation nationale, raison même de son invalidation par la CENI. Le point avec Paul-Richard Malengela.
Plusieurs sources à Bassankoussou témoignent l'arrestation du notable Philippe Boketu Bomanga avec son épouse Colette Wangela depuis le 12 juillet dernier. Tous qualifient d'illégal la décision du procureur Emmanuel Mujinga car celui-ci leur a établi un mandat d'arrêt provisoire à la suite d'une plainte du candidat Sambo Kolombé sur base des dénonciations de fraude électorale dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Vidéo qui le met en cause et qui aurait occasionné son invalidation par la CENI à la députation nationale. Selon Maître Bedel Lofinda, un des avocats de la défense, après analyse de la dite vidéo, tous les 4 griefs formulés par le procureur dont la diffamation, la dénonciation calomnieuse et l'imputation dommageable n'ont pas été prouvées. En conséquence, il exige la libération immédiate de leurs clients qui sont âgés et détenus dans des conditions déplorables, a-t-il dit. Même réaction du collectif des jeunes de Bassankoussou, ils dénoncent ce qu'ils qualifient d'acharnement inutile sur la personne de leur notable alors que son domicile a été cambriolé et il a tout perdu à cause de cette arrestation. Ils en appellent donc au chef de l'État pour la paix sociale. Mbondaka, Porcha Malengela, Radio Okapi.
Dans la province du Kasaï, le programme national de l'hygiène aux frontières déplore les conditions dans lesquelles les Congolais se trouvant irrégulièrement en Angola sont expulsés vers Kamako. D'après le responsable du service à la frontière, le mouvement continue pour ses compatriotes avec l'arrivée la semaine dernière de près de 200 personnes dépourvues de tout. Christian Mabedi estime que ces Congolais devraient être expulsés avec leurs effets pour leur permettre de se prendre en charge quand ils arrivent au pays. Ces propos ont été recueillis par François Kadima.
Les Angolais ont droit d'expulser tous ceux-là, les étrangers qui vivent de façon irrégulière dans leur pays. Mais ils n'ont pas droit de maltraiter ces gens-là. Nos compatriotes sont expulsés d'une façon inhumaine. Ils n'ont pas d'habits, n'ont pas de chaussures. C'est-à-dire que lorsque on les arrête en cours de route, on les prend comme ils sont là. On les fait sortir de la frontière sans avertir les autorités congolaises. Et ça perdurait ce mouvement, c'est depuis très longtemps. Pourquoi nous lançons l'appel au gouvernement, surtout le gouvernement provincial de notre province de Kasaï, de s'impliquer pour que le gouvernement angolais respecte quand même les conditions d'expulsion. Ce sont des personnes humaines, ils doivent les expulser avec leurs effets. À ce moment-là, lorsqu'ils sont sur leur sol, chacun pourra se débrouiller comment survivre.
Actualité internationale.
Alors que l'organisation Human Rights Watch diffusait hier lundi un rapport dans lequel elle appelle notamment les autorités à respecter le droit de manifester et les droits d'expression pour les journalistes, le Conseil des droits de l'homme des Nations, basé en Suisse, examinait le Sénégal. C'est la 4e fois que le pays est ainsi auditionné. La dernière fois, c'était en 2018 et la délégation sénégalaise a justifié ses décisions. À Tripoli, en Libye, la justice a renvoyé lundi pour la 11e fois consécutive le jugement d'Abdallah Senoussi, ancien chef du renseignement militaire, défait l'ancien président Muammar Kadhafi et ancien numéro 2 du régime. La milice chargée de la surveillance de la prison et qui dépend du ministère de l'Intérieur refuse d'appliquer l'ordre de la justice de le transférer de sa prison au tribunal. Abdallah Senoussi est accusé des crimes de guerre par les révolutionnaires du 17 février 2011 et c'est là pour l'oppression lors des manifestations qui ont eu lieu contre le régime libyen durant cette même année.
L'invité.
Un peu moins de 10% des femmes sur 688 députés provinciaux élus dans les 26 provinces, résultat provisoire annoncé dimanche dernier par la CENI. Qu'est-ce qui justifierait ce faible taux d'élection des femmes au niveau des assemblées provinciales? René Capita s'entretient à ce sujet avec Yvette Mouchigo, l'invité de ce journal, donc la secrétaire exécutive de la Synergie des femmes pour la paix et la réconciliation des peuples des Grands Lacs. Suivez.
Madame Yvette Mouchigo, bonjour.
Oui, bonjour, messieurs les journalistes.
66 femmes sur environ 700 députés provinciaux élus, soit un peu moins de 10% de femmes représentées dans les assemblées provinciales. Pour vous qui êtes activiste pour la cause de la femme, quelle lecture faites-vous de ce qu'on peut appeler cette faible performance de la femme?
Déjà d'emblée, je vais dire que ces résultats ne m'étonnent pas parce que déjà au départ, il s'est avéré que la position que les femmes occupent dans notre structure sociale, c'est une position qui a encore beaucoup de défis. Et en même temps, nous avons vu ces élections qui ont été les élections d'un ventre creux qui n'a point d'oreille. Il est clair que les femmes de la société civile ont fait un travail remarquable, non seulement dans la préparation des femmes qui ont effectivement exprimé leur ambition, mais en même temps, dans les préparatifs, on a vu une certaine mobilisation des femmes malgré les défis économiques, financiers et logistiques. Donc pour moi, déjà, lorsque nous avons vu d'autres gros candidats par rapport à la logistique, aussi par rapport aux moyens qu'ils ont, j'ai compris que les femmes avaient moins de chances effectivement de pouvoir soutirer les voix auprès de cet électorat qui, au fait, c'est beaucoup plus remarqué par cet aspect-là de tendre la main, donc un ventre creux qui n'a point d'oreille.
Les femmes avaient moins de chances, vous l'avez dit, et pourtant, il y a quand même, on va dire, certaines disparités entre provinces. Les cas, par exemple, du Haut-Katanga, où on a vu, pour la ville de Lubumbashi, 8 femmes être élues sur 20 députés. Est-ce qu'on va dire qu'il y a des facteurs particuliers qui ont déterminé cette performance?
Il y a des facteurs particuliers, bien sûr, parce que les femmes qui ont été élues au niveau de Lubumbashi, nous avons vu leur positionnement dans les partis politiques. Ce qui est encore remarquable, par exemple, pour le Sud Kivu, ma province, où nous avons vu que dans les partis politiques, les femmes n'occupent pas des places de choix. Certaines femmes même qui ont postulé, elles ont été beaucoup plus dans des partis politiques satellites qui n'avaient pas suffisamment de poids politique. Ça, c'est déjà un problème. Mais on voit quand même certaines grandes têtes de femmes qui sont effectivement bien positionné au niveau de Lubumbashi. Donc particulièrement les sites qui vous présentent quand même des aspects assez inquiétants dans la considération qu'on peut attribuer à la femme, que ce soit au niveau même communautaire, mais aussi au niveau des partis politiques.
Oui, vous évoquez le cas du Sud Kivu où le poids politique de la femme est un peu faible, mais vous évoquez également des facteurs à caractère sociaux et culturel. Que dire alors par rapport à tout ce qui se fait en termes de sensibilisation, des mobilisation des moyens, des formations pour tant soit peu accroître cette participation de la femme? Est-ce qu'il manque quelque chose? Par exemple, les cas des provinces où on a enregistré 0 femme élue au niveau des assemblées provinciales, Madame Yvette Mouchigo.
Il est clair que l'intériorisation des normes et pratiques discriminatoires reste un problème, un défi majeur par rapport à l'élection des femmes. Effectivement, il y a un travail de qualité et même un travail aujourd'hui comparativement à la législation passée qui a été suffisamment fait où on a appelé la femme elle-même déjà à se porter candidate. Elle a été outillée suffisamment. Mais le problème réside déjà même au niveau de l'électorat. Combien de femmes ont compris qu'une femme aussi a des capacités aussi de faire partie de cette gouvernance qui ne devrait pas être exclusive, mais plutôt inclusive.
Ne serait-on pas amené quelque part à désigner aussi la loi congolaise comme n'encourageant pas la participation de la femme?
C'est justement cela. Nous avons une loi congolaise qui n'encourage pas effectivement la participation des femmes. Je peux partir même juste d'un exemple aujourd'hui. Nous avons vu que la plupart des circonscriptions où les chefs coutumiers ont été candidats, la plupart ont été votés et massivement élus encore une fois. Et en même temps, il y a cette loi-là électorale qui permet encore une fois de les coopter dans les assemblées provinciales. Mais comment donner un pouvoir aux gens qui ont déjà un pouvoir et laisser de côté une frange importante de la population qui sont les femmes qui n'ont aucun pouvoir et pourtant elles devraient bénéficier de tous ces avantages-là. C'est à ce moment-là où moi j'ai fait appel aussi à un combat de la société civile de militer pour la question ou la politique des quotas, parce qu'on a l'impression que si la loi n'impose pas effectivement la politique des quotas où il faut autant de femmes, j'ai l'impression qu'on sera toujours en train de naviguer sans bien sûr aller vers les résultats qu'il faut.
Yvette Mouchigo, merci.
D'autres invités, Yvette Mouchigo, secrétaire exécutive de la Synergie des femmes pour la paix et la réconciliation des peuples de Grand Lac, s'entretenait avec René Kapita. C'est la fin de ce journal qui a été supervisé par Alain Irung et mis en onde par Dieudonné Nyangassa. À vous, infiniment merci de l'avoir écouté.